service. Comment entreprendre ou devenir entrepreneur à travers les structures d'accompagnement? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Nous en parlons avec Monsieur Gabriel Lomengo. Il est formateur et coach certifié en entrepreneuriat, président du réseau des coachs professionnels en entrepreneuriat du Congo, RECOPEC en sigle, représentant pays de la Fédération africaine des coaching, FAC, et enfin fondateur et CEO de GLS Business. Monsieur Gabriel Lomengo, bonjour.
Bonjour Madame Jocelyne, pour l'invitation.
Faut-il interdire ou pas l'accès aux réseaux sociaux au moins de 15 ans comme ailleurs, notamment en France? Et ça sera notre deuxième sujet et nous en parlerons avec Maître Ruffin Luco. Il est juriste, co-rédacteur de la loi sur le numérique, chercheur à l'université de Kinshasa et auteur de plusieurs ouvrages. Vous voulez participer à cette émission? Composez le 085 42 11 547 ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook. Benjamin Moudoumbi réalise cette émission. Sylvain Baouguere était la mise en onde sous la supervision de Jean-Marc Matuaki. Mesha Kumbuta Moutou assure la diffusion sur nos plateformes numériques. Je suis Jocelyne Moussa Opondé. En République démocratique du Congo, l'entrepreneuriat attire de plus en plus des jeunes et d'adultes en quête d'autonomie financière et de solutions face au chômage et à la précarité de l'emploi salarié. Mais si les idées ne manquent pas, beaucoup de projets échouent faute de préparation, des structurations et d'accompagnement. Créer une entreprise ne se résume pas à avoir une bonne idée ou un capital de départ. Cela suppose des compétences en gestion, une vision claire, une connaissance du marché et surtout un encadrement adapté. C'est là qu'interviennent les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, coaching, formation, mentorat, incubation, mise en réseau. Alors, comment entreprendre de manière structurée grâce aux structures d'accompagnement? À quoi servent réellement ces structures? Comment choisir le bon accompagnement selon son profil et son projet? Et en quoi le coaching peut-il faire la différence entre un projet qui stagne et une entreprise qui se développe? Pour en parler, je l'ai dit tantôt, nous recevons Monsieur Gabriel Lomengo. Il est formateur et coach certifié en entrepreneuriat, président du réseau des coachs professionnels en entrepreneuriat du Congo, représentant pays de la Fédération africaine de coaching et fondateur et CEO de GLS Business. Monsieur coach, je vais vous appeler comme ça, coach Gabriel Lomengo, pourquoi l'entrepreneuriat attire-t-il aujourd'hui autant des Congolais, notamment les jeunes?
Oui, merci beaucoup pour l'invitation et merci aux auditeurs qui nous suivent un peu partout à travers le monde en RDC pour parler de ces sujets qui est très important. Et sur l'entrepreneuriat et pourquoi l'entrepreneuriat attire. Mais avant d'aborder un peu votre question, je voudrais éclairer un peu deux concepts clés sur l'entrepreneuriat et l'accompagnement, parce que cela va nous permettre un peu de comprendre qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat, de quoi parlons-nous et pourquoi l'accompagnement. Donc l'entrepreneuriat, c'est le fait de transformer un problème, une idée, à une activité économique organisée, n'est-ce pas, en mobilisant des ressources, en prenant des risques calculés et en apportant une solution utile à un besoin réel dans le but de créer de la valeur économique et sociale. Donc l'entrepreneuriat commence par l'élément déclencheur de l'entrepreneuriat dans cette définition ici, c'est le problème.
Le besoin.
Oui. Le problème d'abord, c'est le problème qui appelle le besoin, n'est-ce pas? Et ça c'est très important, c'est ici qu'il y a la différence entre un entrepreneur, un commerçant et un acteur de l'activité génératrice de revenus. Ça, c'est d'une manière claire. Donc, on peut dire que l'entrepreneuriat, c'est l'art de créer de la valeur à partir d'un problème, d'une idée, en répondant à un besoin réel et en assumant le risque pour construire une activité durable. Ça, c'est l'entrepreneuriat. C'est différent du commerce, qui est l'acte d'acheter et de revendre un produit. Et ça c'est différent aussi de l'activité, on appelle ça AGER. C'est activité génératrice de revenus. C'est une petite activité n'est-ce pas? Vous voyez nos jeunes filles, nos mamans qui sont devant la parcelle en train de vendre quelque chose pour des beignets pour survivre. Ça, c'est une activité génératrice
de revenus. C'est pas de l'entrepreneuriat.
C'est pas de l'entrepreneuriat. C'est pour survivre tout simplement et pour avoir un peu de moyens. Et c'est différent. Donc, il faudrait que les gens qui nous suivent puissent comprendre un peu qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat. Maintenant, l'accompagnement, c'est quoi? Quand on parle de l'accompagnement ici, c'est l'accompagnement ici, c'est un processus structuré et continu des soutiens. Ça, c'est très important de souligner parce que ça va nous permettre de comprendre qu'on ne peut pas commencer une activité entrepreneuriale seule. On dit très bien que c'est un processus structuré et continu des soutiens. Et les soutiens ici, c'est l'écosystème. Ce sont des coachs, des formateurs. Donc, l'entrepreneuriat est et l'accompagnement d'entrepreneurs, c'est un processus structuré et continu des soutiens par lesquels un entrepreneur ou un porteur du projet est guidé, conseillé, renforcé par le développement de son idée, la création, la gestion et la croissance de son entreprise à travers un appui humain, technique, stratégique et parfois financier, adapté à ses besoins réels et à son contexte. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette définition ici? On peut comprendre que il y a quatre éléments. L'accompagnement est un processus structuré et continu. Ça, c'est de A. De deux, est un soutien personnalisé. N'est-ce pas? Et de trois, une relation d'aide et de responsabilité. Et de quatre, on peut dire que c'est un appui multidimensionnel, l'accompagnement. Parce que dans la multidimensionnel, c'est-à-dire que l'accompagnement peut inclure le coaching, le mentorat, la formation, les conseils stratégiques et la mise en réseau. C'est-à-dire l'accompagnement peut inclure le coaching, la formation, le mentorat, les conseils stratégiques et la mise en réseau. Ça, c'est très important pour comprendre un peu ça avant de répondre un peu à...
C'est dans quel type d'activité qu'on peut parler de l'entrepreneuriat? Parce qu'il suffit pas de générer des revenus.
Oui, c'est-à-dire, avant de parler de l'activité, l'entrepreneur en soi, qui vit dans un milieu, n'est-ce pas, déterminé, il observe, il constate qu'il y a un besoin. Il constate qu'il y a un problème. Et lui, il vient donner solution. Lui, il vient pas vendre un produit ou un service, mais il vient vendre sa solution. Et c'est comme ça que c'est dans ce contexte que lui, il commence son activité.
Mais quand il n'y a pas de beignets, par exemple, dans un coin et qu'on emmène des beignets, c'est pas une solution, comme vous le dites, entre guillemets.
Oui, une solution, mais ça répond à quel besoin. Est-ce qu'il y a eu étude du marché? Étude des marchés? Est-ce qu'il y a eu, il y a des prérequis, madame? Il y a des prérequis vraiment. Il faut d'abord qu'il y ait un problème. N'est-ce pas? Et après, deuxième étape, il faut réfléchir sur ces problèmes pour développer les modèles économiques. Quel est le modèle économique que vous voulez proposer? N'est-ce pas? Et après avoir réfléchi, et surtout la réflexion se passe à deux niveaux. Il y a le premier niveau, je réfléchis sur le problème, le marché, pourquoi il y a ce manque dans ce milieu-là. Et la deuxième réflexion, c'est par rapport au porteur du projet lui-même. Est-ce qu'il est compétent pour faire ça?
Qu'un entrepreneur doit absolument avoir une idée innovante? Ça doit être forcément différent de ce qui existe déjà?
Oui, l'une des caractéristiques de l'entrepreneuriat, c'est l'innovation. Mais quand on parle de l'innovation, on parle de la créativité aussi, n'est-ce pas? Ça se suit comme ça. Maintenant, il faut apporter quelque chose de nouveau, parce qu'en entrepreneuriat, il n'y a pas de copier-coller, n'est-ce pas? Je peux donner un exemple. Je vais dans un restaurant acheter à manger, mais là, ça prend du temps pour que le serveur, le serveuse vienne
me prendre en charge.
Et moi, c'est un problème. Je peux créer un restaurant à partir d'une idée qui existe déjà, mais je viens améliorer. Qu'est-ce que je viens améliorer? Le temps de service.
Voyez? C'est pour ça qu'il y a des fast-food, par exemple.
Oui, le temps de service, parce que en anglais, on dit time is money. Et quelqu'un qui vient manger, il n'a pas assez de temps. C'est peut-être la pause et il est là. Donc, l'élément déclencheur ici, c'est le problème. Et le problème doit être observé.
Et l'innovation.
L'innovation, oui. C'est-à-dire, il faut toujours qu'il y ait une valeur ajoutée dans tout ce que vous allez faire pour que ça ne puisse pas être des copier-coller. Parce que souvent, c'est ce qu'on voit dans nos villes, dans nos provinces. Et il y a quelqu'un qui vend le beignet, vous venez vendre le beignet, mais vous ne faites pas une étude, vous ne faites pas la prospection, vous n'allez pas sur terrain pour voir, mais pourquoi ces gens ont besoin de ça? Et raison pour laquelle vous allez voir que quelqu'un qui vend, et après un certain moment, il tombe en faillite. Mmh. Parce que ça ne répond pas aux besoins des gens. Mmh. Et il n'a pas fait l'étude pour savoir quel est le besoin des gens. Donc il y a tout un processus. Il y a les prérequis aussi.
Hein, et tous nos jeunes qui sont dans la production des jus, nos mamans qui sont dans le yaourt. Est-ce qu'on peut les considérer comme des entrepreneurs?
Oui, ce sont des entrepreneurs parce qu'il y a une valeur. C'est la différence entre l'entrepreneuriat et le commerce, mm-hmm. ici, c'est le commerce, c'est l'acte d'acheter et de revendre un produit ou un service fini. Mm. C'est-à-dire quelque chose qui a été fabriqué. Je vais dans une boulangerie, j'achète le pain, je viens revendre. Je fais le commerce. Mais on ne dit pas que le commerce est mauvais. Mm. On ne dit pas ça. Le commerce répond aussi à un besoin. Maintenant, le problème ici, l'entrepreneur, avant de vendre quelque chose, il doit observer, vraiment être convaincu que ça répond à un besoin. Et lui, il apporte quelque chose. Une maman qui prend le pain, il peut transformer ces pains-là, l'activité de vendre le pain, à une activité entrepreneuriale. Mmh. Il peut faire les œufs, par exemple. Il peut aussi fabriquer des jus, vendre le pain là, avec les jus, avec les œufs. C'est-à-dire, là, la maman devient entrepreneur. Mmh. C'est un peu différent. Et aussi, en entrepreneuriat, c'est la formation. Il faut être formé. Il y a quatre prérequis très importants en entrepreneuriat. D'abord, il faut être informé. Mmh. Hein, il faut être informé sur les opportunités qui existent, n'est-ce pas? Il faut être formé, n'est-ce pas? L'entrepreneuriat exige la formation. Ce n'est pas comme le commerce où quelqu'un peut commencer une activité sans rien suivre comme formation. Troisième prérequis, il faut faire partie d'un réseau. Mmh. Parce que c'est là où nous avons le coach, c'est là où nous avons le mentor, c'est là où nous avons le formateur, les structures d'accompagnement. Donc, vous devez faire partie d'une structure. Et le quatrième prérequis, c'est la prédisposition. Il faut être prédisposé, il faut avoir le courage, la patience, il faut la volonté de commencer quelque part.
Donc, mais ça, est-ce qu'un transformateur est forcément entrepreneur, même s'il n'apporte pas une innovation? Les entrepreneurs, comme je parlais...
Il y a des entrepreneurs qui font de l'entrepreneuriat, mais qui ne savent pas qu'ils font de l'entrepreneuriat. Mmh. Je rencontre beaucoup dans mes formations, dans mes coachings.
Et il y en a qui se font appeler entrepreneurs et qui ne le sont pas.
Qui ne sont pas entrepreneurs, mais ce sont des commerçants. Vous allez acheter quelque chose qui a été fabriqué par une autre personne et vous revendez ça. Vous êtes un commerçant.
Et là, mon voisin produit du jus de mangue.
Oui,
de mangue.
C'est un entrepreneur. Mais est-ce qu'il a suivi tous les processus pour dire qu'il est entrepreneur? Est-ce qu'il a observé les besoins? Parce que les jus, oui, il y a des gens qui boivent les jus, qui prennent les jus. Mais quel type de jus les gens ont besoin dans le milieu où vous êtes? Mmh. Donc ici, l'élément déclencheur ici, c'est l'observation, c'est la détection d'opportunités à travers les problèmes, à travers les besoins. Si vous n'arrivez pas à faire ça, donc vous êtes entrepreneur, mais vous êtes un entrepreneur inconscient, vous ne savez pas que vous êtes en train de faire l'entreprise. Et ça rattrape où? Ça rattrape quand un projet arrive, madame Jocelyne. Quand un projet arrive, il faut maintenant élaborer un plan d'affaires. Mmh. Et le plan d'affaires, vous n'avez aucune information sur le plan d'affaires. Et après le plan d'affaires, il faut élaborer les pitchs. Les pitchs, c'est la présentation de votre projet, n'est-ce pas, en seconde, en minute. Maintenant, quand vous n'arrivez pas à faire ça, ça dit que vous faites l'entrepreneuriat sans le savoir. Mmh. Donc il y a des critères et vous allez voir que il y a les projets, par exemple, on a des projets transformés et il ne sait pas faire le plan d'affaires. Il n'a jamais été retenu. Mmh. Pourquoi? Parce que d'abord son projet ne répond pas aux critères de l'entrepreneuriat. Mmh. C'est un projet qui répond aux critères du commerce, mais vous amenez ça en entrepreneuriat, ça ne répond pas. Donc, raison pour laquelle nous disons, il faut être informé, il faut être formé, il faut faire partie d'un réseau, il faut avoir cette prédisposition pour avancer, aller de l'avant.
Comment entreprendre ou devenir entrepreneur à travers les structures d'accompagnement? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Et pour nous joindre, 085 42 11 547, 085 42 11 547, ou nous laisser un commentaire sur notre page Facebook. Nous avons une auditrice en ligne, Ngalula Kapajika Monique, qui nous appelle depuis le Kasaï central dans la ville de Kananga. Bonjour, Madame Ngalula. Madame Ngalula, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, madame. Oui, je suis en ligne.
Oui, bonjour. Quelle est votre contribution à cette émission et quelles sont vos préoccupations?
J'apprécie beaucoup parce que je fais partie de l'un des coordinateurs provinciaux de l'ONEC. Et quand j'ai vu d'abord ce thème, ça m'a beaucoup intéressé du fait que nous sommes sur terrain en train de travailler. On se bat tant bien que mal. Et ceux qui viennent pour nous dire qu'ils vont nous accompagner, par exemple, l'invité de tout à l'heure, c'est notre...
Le coach Gabriel.
Il est notre coach. Il me connaît, je le connais de loin parce qu'il est mon coach. J'ai beaucoup apprécié. Pourquoi? Parce que avec le projet Transforme, il nous a trouvés sur terrain en train de travailler et il nous a promis l'accompagnement et consort. Et on s'est démené pour remplir les conditions et être aussi retenu. Et tout d'un coup, il nous écarte sans dire pourquoi il nous écarte. Alors, en tant qu'entrepreneur, je ne me décourage pas. Et quand j'ai vu l'ONEC voir le jour, je me suis encore engagé. Par exemple, mon projet, c'est quoi? Moi, j'ai fourni l'eau à partir d'une borne fontaine. Maintenant, je conditionne cette eau-là d'une façon archaïque ou locale. Et je conditionne, je le fais avec les petits matériels, mais mon souci était quoi? Mon souci, c'est de faire de cette eau-là une grande production qui met dans les bouteilles. À côté, j'ai pensé aussi plus loin pour dire quand je vais mettre dans les bouteilles, c'est-à-dire que les bouteilles vont constituer les déchets. J'ai pensé même à comment gérer les déchets de mon entreprise. J'ai intéressé d'autres entreprises. Nous nous sommes mis ensemble dans une mutualisation. Et donc, c'est ça. Moi, j'ai cherché les gens qui puissent me donner les formations solides pour asseoir ma vision, pour asseoir mon idée et pour perfectionner ce que j'ai fait. Donc, je n'ai pas une question, mais je reste scotché à mon coach pour qu'il puisse bien me coacher afin que mon rêve-là devienne une réalité pour fournir une grande quantité d'eau à moins cher sur la ville de Kananga et à côté pour arriver à être formé dans la récolte et dans la gestion des déchets et devenir aussi une grande entreprise sur la ville de Kananga parce que la gestion des déchets, c'est un problème pas seulement mondial, mais au Kasaï central, on ne sait pas comment on doit gérer les déchets, qui les gère, ainsi de suite. Voilà.
Merci, Madame Ngalula Kapajika Monique, depuis Kananga. Coach, Madame estime que son projet est intéressant puisque elle innove, elle apporte des solutions, elle apporte de la valeur à ce qui existe déjà, mais son projet a été écarté.
Bon, c'est le projet Transforme a des critères, n'est-ce pas? Et est-ce que et heureusement j'ai été écarté, mais je continue à travailler, à bosser.
Oui. Ça c'est parce qu'on travaille pas pour le projet
c'est
Transforme
l'une de qualité pour un entrepreneur ou une entrepreneur. Ça dit n'est pas abandonner. La résilience. Ça fait partie des qualités d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur. Moi, ce que je veux encourager, je connais ONEC, hein. ONEC, c'est l'Ordre National des Entrepreneurs du Congo. Je crois que Madame
Monique,
de continuer à travailler. Et c'est un concours. Et le projet Transforme ne saura pas donner les moyens à tout le monde. C'est-à-dire, on sélectionne le meilleur projet. Peut-être prochainement, madame sera sélectionnée.
On va prendre Justin Koulou, qui nous appelle depuis Funguru, mais au Lualaba. Bonjour, Justin.
Bonjour, madame. Et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi qui nous suivent en ce moment et les coachs. En tout cas, ça me va tout droit au cœur. Moi, Justin, qui vous parle de Funguru, mais j'ai été formé à Cayeye par une Espagnole qui s'appelait Paqui. C'est la sœur Julie de la congrégation de Saint-Joseph qui avait organisé ça. À la sortie de cette formation, j'ai manifesté l'intérêt de ma promotion. J'ai remonté aussi à réformer les entrepreneurs. Alors, j'ai créé même le plateforme dénommée Bouma Tankuka, qui répond que Bukama, Malemba, Tankuka, Bukama, c'est le territoire, et Malemba, territoire, notre territoire d'origine. Alors, j'ai commencé aussi à recadrer aussi les jeunes entrepreneurs. J'ai organisé à Luena une coopérative agricole qu'on a transformée en ONGD qui s'appelle Mutufuate. On a eu des projets dans l'agriculture, mais jamais eu l'assistance. J'ai formé encore, il y a un jeune entrepreneur, même actuellement à Fungurume, mais il m'a contacté hier, que comment est-ce que je dois ouvrir une structure sanitaire, et comme vous avez des relations avec les médecins, les chefs de zone, Jacques Mkembe, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Mais c'est là où j'entre avec mon intervention, l'accompagnement. Nous sommes invités à des documents légaux. Pour avoir l'entreprise, il y a plusieurs documents tels que statut notarié conforme à l'OADA, acte notaire, greffe du statut, RCSM, attestation de avis d'assujettissement à la TV. C'est presque 11, on ne peut pas les terminer à les énumérer ici. Qui fait que nous soyons toujours poursuivis par les organes pour venir nous mettre à genoux. Et si vous n'avez pas ça, c'est toute une mer à boire. ONG de Mutufuate, ça se trouve à Luena. Pour avoir seulement les F90, c'est encore un grand problème. Nous pataugeons toujours. Et les documents livrés pour l'autorisation de fonctionnement, ça demande une très forte caution que nous n'arrivons même pas à organiser. Alors, tout ça, ça entre dans l'accompagnement. J'ai sonné, j'ai parlé avec le Better Life, ça se trouve à Lubumbashi. Il y avait une dame qui me décrochait. Nous donnons les tracteurs, nous donnons ceci. Donc, ça ne va pas. Au moment que je parle avec vous, je suis à Luozi. Là où je vis, M. Mouindo Zangi traversait, partir à un chantier de l'autre côté. Quand vous arrivez en Kounti, vous avez déjà été dans le territoire de Luozi. Quand vous traversez la rivière, vous prenez la direction de Kounti, vous arrivez à Bandakani. Il y a un champ du gouvernement, et même Bukangalos a laissé. Donc, on finance, on assiste beaucoup, le gouvernement assiste beaucoup les projets comme ça pour soutirer le compte-retour. Quand il donne un projet à quelqu'un, lui, il attend aussi le calcul-retour, la rétrocession, je ne sais pas, d'histoire comme ça. Mais il fallait assister, accompagner les entrepreneurs qui sont assistés par les taxes.
Merci, Justin Nkoulou. On a compris votre préoccupation. Oui, le secteur agricole qui a l'impression d'être délaissé.
Il a parlé de deux choses. Mise en réseau, qu'il a suivi une formation et il commence aussi à accompagner. Et il a parlé des difficultés aussi des documents, pour avoir des documents. Moi, je crois que, peut-être qu'il n'a pas... S'il peut s'associer à d'autres structures qui existent, au niveau de chaque province, nous avons ce que nous appelons le Conseil provincial de la jeunesse. Parce que je suis coach aussi au Conseil national de la jeunesse. Alors, il y a le Conseil provincial, il y a le Conseil local, il y a le Conseil communal. S'il peut se rapprocher des conseils communal, conseil local, ils vont voir comment est-ce qu'avec les conseils local, conseil communal et conseil provincial, et ils peuvent faire des plaidoyers, n'est-ce pas, pour que leur doléance conscience puisse être écoutée par les autorités.
On a aussi Madame Noëlla Boukiakou Poutou qui nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour Noëlla Boukiakou. Est-ce que Madame Noëlla est en ligne? Non, on l'a perdue. On va tenter de la voir à nouveau. Parlons de l'accompagnement même, coach. Mmh. Donc, vous accordez assez d'importance à cet accompagnement. Pourquoi l'accompagnement est vraiment déterminant dans la réussite de l'entrepreneur?
L'accompagnement est déterminant dans la réussite de l'entrepreneur parce que l'accompagnement prépare l'entrepreneur. L'entrepreneur est préparé à travers des formations, n'est-ce pas? À travers des informations et à travers les coachings. Il est préparé. Il est outillé. Parce que, comme nous avons dit, il faut apprendre à détecter les opportunités qui existent dans le milieu où vous êtes. Alors les structures d'accompagnement, parce que d'abord ils ont de l'expérience, ils ont de l'expertise pour former. Moi qui vous parle, je suis coach certifié, n'est-ce pas? Donc je ne viens pas parler de l'entrepreneuriat par hasard comme ça. J'étais certifié, reconnu par les autorités congolaises que je peux enseigner, je peux former, je peux coacher. Donc c'est l'expertise qui est mise au service des entrepreneurs qui garantit cette réussite. Et aussi il y a les suivis, parce que la formation c'est dans une salle, dans un auditoire.
Oui.
C'est la transmission des connaissances, des compétences. Maintenant après la formation, il y a le coaching.
Parce que vous parlez de formation, coaching
et mentorat.
C'est différent.
Oui, c'est différent. La formation, c'est...
Il y a aussi les incubateurs.
Oui, la formation, c'est transmettre des compétences techniques, des compétences managériales, des compétences entrepreneuriales, n'est-ce pas, dans une salle et vous apprenez. Et maintenant, en entrepreneur, c'est pas comme dans la formation professionnelle où vous terminez la formation et vous partez chez vous, on vous donne les certificats. C'est vrai qu'en entrepreneuriat, on donne les certificats. Mais en entrepreneuriat, ce qui compte plus, c'est quoi? C'est ce suivi-là qui va se faire, n'est-ce pas, sur terrain avec un coach pour aider l'entrepreneur à découvrir ce qu'il est, ses potentialités et à prendre de bonnes décisions. Et là, ça peut se faire d'une manière individuelle, ça peut se faire d'une manière collective. Donc c'est un peu ça, c'est très important. Et raison pour laquelle nous disons, un entrepreneur qui n'est pas formé n'a pas assez de chances pour réussir.
Et c'est quoi la différence entre formation et coaching?
La différence entre la formation et le coaching est que la formation, on transmet des compétences à travers des connaissances qui sont données dans la salle, dans l'auditoire.
Des cours.
Des cours, oui. Des modules de formation.
Oui.
Donc on a des modules. Des modules qui sont conçus par des ingénieurs pédagogues. C'est pas n'importe qui conçoit un module de formation. Donc il faut avoir suivi la formation d'ingénierie pédagogique pour concevoir des formations. Et après la formation, et maintenant ça vient le coaching. Le coaching, c'est quoi? Le coaching, c'est cet accompagnement un peu spécial qui est personnalisé où l'entrepreneur va va apprendre à stimuler sa réflexion, n'est-ce pas, et à travers la prise de conscience et l'action, n'est-ce pas? Et jusqu'à ce que l'entrepreneur sera apte pour aller de l'avant. Et là, maintenant, nous entrons dans le concept de coaching, n'est-ce pas?
Oui.
Parce que les coaching, c'est maintenant un processus d'accompagnement personnalisé visant à libérer les potentiels d'une personne, d'une équipe ou d'une organisation afin d'optimiser la performance, la confiance. Donc, il y a la formation qui est donnée
dans la salle,
oui. Dans un langage simple, l'auditoire avec des modules sur le ABC de l'entrepreneuriat, sur la gestion, sur l'élaboration des plans d'affaires, sur comment est-ce qu'on peut faire la prospection sur terrain. Maintenant, ça termine là. Maintenant, le coaching vient maintenant pour prendre l'entrepreneur et aider l'entrepreneur à réfléchir sur ses potentialités et voir comment est-ce qu'il peut donner et prendre des décisions utiles pour qu'il puisse aller de l'avant. Mmh. Maintenant, il y a aussi une autre notion qui intervient, qui est la notion de mentorat.
On va y revenir. Le temps de prendre Fiston Ngala, Alexandre, qui nous appelle depuis le sud de Bangui à Guémena. Bonjour Fiston Ngala.
Bonjour madame, bonjour coach. En tout cas, je tiens à féliciter la Radio Capi pour le choix de ce sujet.
Merci.
Je voulais échanger et puis partager l'expérience avec le coach parce que j'avais eu vraiment le temps de suivre la formation sur l'entrepreneuriat. J'ai reçu également un coach, malheureusement pour moi que quand on s'est entretenu, après tout, pour des raisons de service, et les coachs, il était en déplacement. Mais quand j'ai lancé mes activités, parce que je suis en train d'évoluer dans le secteur de l'élevage de volailles, l'année dernière, j'ai tenté une expérience d'acheter des coqs pour afin de les revendre au mois de décembre. Et puis, j'ai essayé d'évoluer. À un moment donné, je me suis confronté à un problème où les gens de mauvaise foi, ils ont pu tout détruire, voler. Et puis, je voulais demander au coach, est-ce que quel conseil qu'il pourrait me donner pour que je puisse rester dans ce domaine? Parce que je trouve que quand j'ai mené l'étude du milieu, il se pose un problème ici, dans la province d'ici, du Bangui et à Guémena, sur la carence alimentaire. Je suis en train d'évoluer. Et puis, autre secteur que j'évolue, c'est dans le secteur de coiffure. Mais je voulais demander au coach, une fois que vous avez mené l'étude du milieu, vous avez pu implémenter votre pensée et puis vous avez lancé l'activité. Spontanément, vous allez remarquer que les agents de l'État, l'autre amène les taxes, l'autre là amène, et puis pour avoir également les documents qui certifie que vous évoluez dans tel domaine. En tout cas, c'est tout un syllabus de prière. Alors, qu'est-ce que les coachs pourraient me dire comme conseil pour que je puisse étendre mes activités dans le secteur de l'élevage, mais également dans la coiffure mixte?
Merci, Fiston Ngala, coach Lomengo.
Oui, j'ai dit ça tout au début. J'ai dit ça au début, il y a quatre prérequis, c'est-à-dire il y a quatre conditions si vous voulez vraiment commencer à entreprendre. La première des choses, c'est il faut être informé sur les opportunités qui existent et sur l'écosystème. La raison pour laquelle quand on fait l'étude sur l'écosystème, il y a l'analyse SWOT, il y a l'analyse PESTEL. Maintenant, vous êtes informé sur les opportunités qui existent. Deuxièmement, il faut être formé et être coaché. Parce qu'il a parlé de la formation. Il y a la formation, oui. Vous suivez une formation ou transmission des connaissances, comptabilité, marketing, gestion, tout ça c'est bien. Mais est-ce que vous avez suivi un coaching? Parce que nous, en entrepreneuriat, ce n'est pas comme dans la formation professionnelle. Vous avez seulement la formation. Mais il y a aussi le coaching. Est-ce qu'il a suivi le coaching? Il vient de dire que son coach s'est déplacé. Peut-être c'était ça le problème. Mais il faut être coaché. Il faut avoir un coach à permanence pour que ce coach-là puisse vous aider et évaluer un peu ce que vous êtes en train de faire. Troisièmement, nous avons dit, il faut faire partie d'un réseau. Ça, c'est très important, madame. C'est-à-dire, c'est à travers le réseau que vous avez des structures d'accompagnement. Est-ce que monsieur faisait partie d'un réseau? Et il parle de tracasserie des agents de l'État.
Oui.
Tracasserie, oui, ça peut exister. Mais est-ce que quand vous êtes dans un réseau, vous allez faire des plaidoyers à travers le réseau, faire des lobbies pour que votre voix puisse être écoutée? Parce que l'État ne travaille pas avec des individus.
Mais ça dépend aussi des milieux. Peut-être dans son milieu, peut-être qu'il n'y a pas assez de coachs. Le seul
dans son milieu, il n'y a pas assez de coachs, mais il peut commencer.
Comment les trouver?
Oui, il peut commencer. Il est à Guémena. Oui, il peut y avoir des problèmes de coach, mais il peut suivre des coachings en live, en ligne sur Zoom. N'est-ce pas? Je ne sais pas comment est-ce qu'ici...
Ou les contacter au téléphone.
Oui, je ne sais pas comment est-ce qu'ici les gens peuvent entrer en contact avec moi. Mmh. Peut-être à travers la radio, à travers l'émission.
Oui.
Nous, ils peuvent nous atteindre. Donc, c'est un peu ça. Et comme j'ai dit, il y a le Conseil national de la jeunesse, il y a le Conseil provincial, il y a le Conseil local. Là où il est, parce que le Conseil national a un département qui gère l'entrepreneuriat avec le conseiller Ronaldo Mayumbu. Donc, il y a toute une équipe qui existe au niveau des provinces. S'il peut contacter cette équipe-là, et les conseils locaux et nous pouvons les conseils locaux, les conseils provinciaux peut l'aider à bien structurer. Alors, il a posé aussi un autre problème sur l'étude du millier, ce que nous appelons l'étude de marché.
Mmh.
Bon, dès qu'on finit l'étude de marché, on ne lance pas les projets directement. Quand on finit l'étude de marché, il faut maintenant écrire. Et ce moment d'écrire, c'est ce que nous appelons l'élaboration des plans d'affaires. C'est-à-dire que vous avez constaté sur le terrain et vous avez dit que le marché est réel, le marché sera rentable et les gens vont acheter les produits. Maintenant, vous écrivez ce que nous appelons les plans d'affaires. Et le plan d'affaires va refléter ce que vous avez fait comme étude sur le terrain. Et là, toujours accompagné par un coach. Vous voyez, ça c'est très important. Maintenant, il pose aussi un problème. Est-ce qu'il peut rester dans le volaille ou il peut être dans
dans la coiffure,
élevage ou coiffure mixte. Ça dépend de l'étude des marchés que vous avez réalisée dans le milieu où vous êtes. Mais je vous dis, dans cette étude des marchés, il faut toujours avoir un coach, il faut toujours être accompagné. Parce que l'accompagnement est très important. Il y a la formation qui est là, vous suivez la formation, mais il y a le coaching qui est très important. Donc ça, c'est souvent les entrepreneurs oublient cet aspect-là. Et nous essayons un peu de rappeler que le coaching est très important parce que c'est une façon de aider l'entrepreneur à réfléchir, à décider et agir par lui-même. Et ça, c'est très important. Il y a aussi l'aspect mentorat. Il y a aussi, j'ai parlé de la formation, le coaching et le mentorat.
Et moi, je vous disais qu'on va y arriver parce qu'on a encore des auditeurs en ligne. Il y a Maître Omar Kigalo qui nous appelle depuis, malheureusement, parce qu'on a passé beaucoup de temps en studio et Maître Omar Kigalo est parti. Donc, on va parler du mentorat, coach Domingo.
Oui, comme je disais, le mentorat maintenant, c'est apprendre par l'expérience d'un entrepreneur plus avancé. Vous êtes dans la fabrication des jus.
Mm-hmm.
Vous avez suivi une formation sur l'ABC de l'entrepreneuriat, mais vous devez aussi suivre une formation sur la fabrication des jus. C'est très important.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, il y a deux moments de formation. Il y a la formation sur le ABC de l'entrepreneuriat.
De l'entrepreneuriat, d'une manière générale.
D'une manière. Et il y a maintenant la formation sur le secteur de votre activité.
Mm-hmm.
Parce que les gens oublient souvent, les entrepreneurs oublient. Ah, je vais suivre une formation sur l'entrepreneuriat, ça suffit et j'ai un certificat.
Et ces mentors, est-ce qu'ils sont disponibles?
Maintenant, le mentor,
est-ce que les gens sont assez ouverts?
C'est là où je reviens.
Voilà.
C'est maintenant dans la formation du métier de votre secteur, c'est là où le mentor intervient. Il y a un formateur qui est expérimenté, un chimiste, je ne sais pas, dans la fabrication des jus.
Mmh.
Parce qu'il y a des formules, il y a des mélanges qu'il faut faire. C'est quelque chose qui sera consommé par la population.
Il y a des normes d'hygiène.
Il y a des normes d'hygiène, il y a des normes qu'il faut suivre. Donc il faut que cette personne soit certifiée. Et aussi maintenant, le mentor vient pour partager son expérience, madame. Le mentor vient pour partager son expérience. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la fabrication des jus. 20 ans, 30 ans dans la fabrication des jus. Maintenant, il faut connaître
ces gens. Et qui accepte de partager ses connaissances.
Oui, il y a des gens qui n'acceptent pas. Maintenant, j'ouvre une parenthèse parce que on est aussi dans un vide juridique sur les acteurs clés de l'accompagnement.
Oui.
Les formateurs, les coachs, les mentors. C'est ce que l'ANADEC vient de faire. Et je félicite le travail que le DG de l'ANADEC est en train de faire. On a mis en place le référentiel pour savoir qui doit être formateur, qui doit être coach, qui doit être mentor. Il y avait un vide, on ne savait pas. Chacun se réveillait le matin,
il devient coach, il devient formateur,
il devient mentor. Donc c'est ce vide-là que le professeur Godefroy Kizaba, que je salue en passant, qui a pris l'initiative vraiment courageuse pour dire, niet, trop c'est trop, En RDC, pour soutenir l'entrepreneuriat, il faut mettre en place des modules de formation, des standards nationaux. Et c'est ce que nous avons fait.
Voilà, on va revenir au mentorat et même à l'incubation. On va prendre le temps de prendre un autre auditeur en ligne. Bienvenue Kikala, qui nous appelle depuis Kikwit. Bonjour, bienvenue. Bienvenue Kikala, vous êtes en ligne.
Oui, pardon, est-ce que vous m'écoutez? Parce que moi je vous capte avec...
On vous capte aussi avec beaucoup de difficultés. Bienvenue, essayez de vous déplacer pour voir si...
Je l'ai déjà fait, j'espère là ça marche.
Oui, là on vous écoute mieux.
Ok, moi je voudrais poser juste une question au coach. Il y a des fois les gens qui passent, parce que moi je fais mes recherches sur l'entrepreneur, les gens qui passent dans les centres d'incubation, in fine, sur le terrain, nous ne trouvons pas beaucoup d'améliorations parce qu'on voit les centres de formation, de coaching en entrepreneuriat se transformer encore en auditoire de l'université où il n'y a pas assez de grandes différences entre la formation scolaire ou académique et celle qu'on donne dans des centres de formation. Moi, je voudrais suggérer une chose, que cette pratique ou formation soit réellement pratique. Quelqu'un posait la question de la différence entre coaching et formation. Il y a certaines personnes qui estiment être mentor, mais lui-même peut-être n'a jamais évolué dans ce secteur-là. Comment vous allez partager votre expérience aussi longtemps que vous-même vous en souffrez, vous n'en avez pas assez de l'expérience. Et là aussi, ça pose beaucoup de problèmes. Voilà à ce que je pouvais contribuer.
Merci beaucoup. Bienvenue Kikala, depuis Kikwit, coach Lamengo.
Oui, c'est très important. Moi, je suis coach en entrepreneur. Je ne peux pas être coach au moment où je n'ai même pas le RCC. Raison pour laquelle vous m'avez présenté comme CEO, fondateur de l'entreprise GLS Business. J'ai une entreprise, madame.
Vous devez avoir pratiqué.
Oui, que vous comment est-ce que je peux venir ici? Je n'ai même pas le RCC. Et c'est ce qu'on voit un peu. Monsieur Bienvenu Kikala a raison. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais été formé. Il finit l'université par manque de boulot, à cause du chômage. Il prend son cours magistral de l'université, il transforme ça en un module de formation. Alors, il va sur IA, il va sur Google, il fait des téléchargements, il ne conçoit même pas. Et il fait des copies-coller, il dit il est formateur, il est coach. Ça, c'est très important. Et je reviens toujours à ce que j'ai dit. C'est parce qu'il y avait un vide. Il y avait un vide. L'ANADEC a pris des choses en main parce que n'importe qui s'est réveillé le matin. Et je fais partie de cette commission qui a mis en place le référentiel. Parce que je suis un acteur majeur, je suis expert en entrepreneuriat. Vous voyez? Et nous avons fait ce travail-là. Et nous avons dit, niet, trop c'est trop. L'ANADEC doit faire son travail. Et l'ANADEC est en train de faire. Et je crois d'ici une semaine ou deux semaines, le référentiel sera publié, présenté aux autorités acquis des droits.
Donc il faut détenir un document.
Très bien,
maintenant. Que vous êtes coach, mentor,
madame,
ou formateur.
Jocelyne, on ne peut pas se réveiller le matin parce qu'on a fait l'université, on n'a pas de boulot. Et on vient donner des formations. N'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, l'entité, la structure qui est chargée de la capacitation en République démocratique du Congo, c'est l'ANADEC, qui est l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Et c'est cette agence qui est la seule structure et aussi, moi je suis privé, je suis du secteur privé, j'ai une entreprise qui est dans la formation. Maintenant, mes formations à moi doivent être aussi certifiées par l'ANADEC. J'étais agréé, reconnu par le ministère de l'entrepreneuriat et de PME, n'est-ce pas, comme entreprise et comme structure de coach. Maintenant, c'est l'ANADEC qui doit aussi voir quelles sont les formations que vous êtes en train de donner. Quel est le modèle, quelle est la méthodologie pédagogique que vous êtes en train de donner? Est-ce que c'est de l'andragogie ou de la pédagogie? Donc, on était dans une cacophonie, on était dans un désordre où n'importe qui faisait, et raison pour laquelle M. Bienvenu a raison, comment est-ce qu'on peut transformer une salle de formation comme si c'était un auditoire où un professeur venait donner. Ça, c'est très important ce qu'il a dit. Et moi, je soutiens cela. Avec ce que l'ANADEC a fait, je crois que cette fois-ci, il y aura quand même de l'ordre et on ne va plus accepter que n'importe qui se réveille le matin. C'est comme dans, il y a l'ordre de médecin. C'est pas n'importe qui doit pratiquer la médecine.
Du jour au lendemain.
Il y a l'ordre des avocats. C'est pas n'importe qui. Mais pourquoi dans le domaine de l'entrepreneuriat, et n'importe qui se réveille le matin, il devient formateur, il devient coach, il devient mentor. Donc ça, c'est pour mettre un peu de l'ordre. Donc, il y a le formateur, il y a le coach, il y a le mentor.
Voilà, on va prendre Sylvain qui nous appelle depuis Bounia. Bonjour Sylvain. Quelle est votre contribution à notre émission et quelles sont vos préoccupations?
En fait, moi, je n'ai pas de préoccupations. Peut-être que je voulais dire quelque chose. Je suis de l'école du management avec le prof Samuel Ritu, spécialité entrepreneuriale. Des fois, quand nous écoutons les gens discuter entrepreneuriat, on se pose beaucoup de questions. Pas dans mes styles de moi. Je n'ai aucun intérêt à minimiser qui que ce soit. Mais d'abord, je voudrais rappeler à l'invité qu'on n'était pas minimisé. Quelqu'un qui a passé 5 à 7 ans à l'université en train d'apprendre l'entrepreneuriat et donner sa connaissance aux autres qui viennent dans la société. Il a dit quelque chose qui a choqué mon intelligence. C'est comme si pour cela, qui fait 5 ans, 10 ans, en train d'approfondir la question de l'entrepreneuriat à l'université, ne représente rien. Il faudrait tout simplement avoir un RCFM et créer une petite cellule de formation entrepreneuriale et pour directement se juger expert. C'est faux. Alors je voudrais dire ceci, le problème de l'entrepreneuriat au Congo est d'abord un problème humain, un problème congolais. J'ai eu la chance de visiter certains pays, le Kenya et d'autres pays. L'entrepreneuriat, c'est la sphère de la vie. Et aujourd'hui, je vais aller très loin. Je savais même que beaucoup de pays, même sur le cadre politique, axent leurs actions sur l'entrepreneuriat comme pilier politique. Pourquoi? Parce que la création de la richesse est avant tout l'œuvre d'entreprise, l'œuvre d'esprit entrepreneurial. Alors, il faut qu'il y ait un film entrepreneurial politique qui booste l'esprit de créativité. Et vous verrez que la question de l'entrepreneuriat se facilite, devient aisée, contrairement à la situation qu'on traverse au pays. Le prof Godet, dont il fait allusion, l'homme de la NADEC, que j'ai beaucoup changé avec lui les années passées, je pense que la politisation du secteur entrepreneurial au Congo devient nocive même à l'esprit entrepreneurial et même au goût d'entreprendre. Ce qui décourage, vous savez, moi j'ai suivi cette émission depuis le début. Beaucoup d'intervenants expriment la déception. Du point de vue méthode ou approche du vision entrepreneur congolaise, on se rend compte que c'est devenu un jeu d'intérêt pour une catégorie, pour une classe. Je l'ai dit plusieurs fois, pour vous. Et donc, c'est nous qui avons comme fil conducteur l'entrepreneuriat. Il faut simplifier certaines choses. J'ai vu aux États-Unis, c'est pas fait que les gens sont en train de chanter comme théorie d'action entrepreneuriale ici. On va rendre difficile l'accès aux possibilités entrepreneuriales aux jeunes congolais. Pourquoi? Moi, je lis les procédés mis à place par tous les secteurs. À l'époque, c'était le ministre Muzoka Bamba qui gérait ça comme ministre, avec tous les différents services qui revenaient dans les secours. Mais l'accompagnement dans l'invité, c'est même à de faire des biens, ou que nous sommes pour ces jeunes gens, ces jeunes soeurs, ces jeunes frères.
Merci, merci Sylvain. On vous a capté. On va laisser aussi le temps aux autres auditeurs d'intervenir dans cette émission. Coach Lomengo, vous allez répondre à Sylvain qui pense qu'il faut pas mépriser ceux qui ont suivi un cursus universitaire. On va répondre à Sylvain, mais qu'on prenne d'abord Emmanuel Fataki qui attend aussi au bout du fil. Emmanuel, bonjour. Emmanuel Fataki, est-ce que vous êtes en ligne?
Bonjour, bonjour madame la journaliste et bonjour Radio Okapi.
Bonjour, on vous écoute Emmanuel.
Oui, merci. Je voulais intervenir par rapport à ce sujet. Promouvoir l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Et c'est ce que nos dirigeants doivent comprendre. Vous savez, la Chine, les États-Unis et tous les autres pays avaient déjà compris ce combat bien avant nous. Et ils savaient déjà, ils investissaient plus à l'entrepreneuriat, ils étaient en train de promouvoir l'entrepreneuriat bien avant que nous le sachions. Et aujourd'hui, comme on vient en retard à peine se réveiller, Il n'est pas encore trop tard d'encourager l'entrepreneuriat, d'encourager les jeunes à entreprendre. C'est une bonne chose. Et surtout, ce qui prime plus, c'est l'accompagnement. L'accompagnement est nécessaire. La formation aussi est nécessaire. Vous savez, il y a tant d'entrepreneurs qui se lancent. Et après un lancement comme ça, ils n'arrivent pas à évoluer. Ils succombent, ils tombent. Alors, on n'arrive pas à comprendre. Tout cela, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment l'accompagnement, il n'y a pas la formation. C'est quelqu'un qui se lance à l'entrepreneuriat agroforestier. Il n'a pas de mentor pour l'accompagner sur ce chemin. Il n'a pas de maître pour le guider. Mmh. Il n'a pas vraiment une connaissance bien solide par rapport à ça. Alors, il finit toujours par chavirer. Alors, c'est ainsi que on voit l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose, mais cela doit être accompagné par des formateurs, avec des coachs. Tout celui qui veut entreprendre doit d'abord passer par un maître, par un coach qui peut le guider par rapport à ce chemin.
Merci Emmanuel, on va laisser le temps à notre invité de répondre rapidement parce que on tend vers la fin de cette émission.
Je réponds à M. Sylvain, je ne suis pas en train de mépriser le professeur ou ceux qui enseignent à l'université. Tout ce que je voulais dire...
Ou ceux qui ont appris à l'université veulent partager leurs connaissances.
Oui, je suis en train de faire la différence entre un cours magistral qui est donné à l'université et une formation en entrepreneuriat donnée à travers un module. En entrepreneuriat, le formateur, le coach doit être certifié. Ce n'est pas cette casquette de professeur qui vous autorise, qui devient votre passeport, laissez-passer, pour devenir formateur automatiquement. Non. C'est-à-dire, il faut passer par un processus de formation des formateurs. C'est ce que je suis en train de dire. Et le gouvernement, à travers le ministère de l'entrepreneuriat et développement des PME, son excellence, le ministre, est en train de faire un grand travail. Et maintenant, à travers l'ANADEC, nous avons maintenant un référentiel qui va mettre de l'ordre. On ne devient pas formateur comme ça. On ne méprise pas. Mmh. On dit, vous êtes à l'université, vous enseignez à l'université, vous voulez devenir formateur, vous devez suivre une formation. Il y a le professeur Paul Omanch qui organise des formations de coachs et de formateurs ici, à l'École nationale.
Et des secteurs, comme disait Emmanuel, il y a des secteurs qui manquent de mentors, comme
oui, le secteur manque. Si vous regardez la loi. Oui. Ça, je veux aussi inviter les auditeurs à lire la loi sur l'entrepreneuriat. C'est la loi numéro 22/030 où on a mis en place 15 secteurs d'activité en entrepreneuriat.
Donc, si vous lisez... contacter aussi, hein, nous tendons vers la fin, nous sommes à la fin de l'émission, votre contact pour ceux qui veulent bien.
Je suis coach Gabriel, donc vous pouvez me contacter par 082-00-13-340, 082-00-13-340, je suis coach Gabriel, donc on peut vous aider, on peut vous accompagner dans ce monde entrepreneurial.
Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir participé à cette émission. On se retrouve tout de suite après le bulletin d'information pour la deuxième partie d'Okapi Service.
Merci beaucoup.
et messieurs, bonjour et bienvenue à la seconde partie du magazine Okapi Service. Faut-il interdire ou pas l'accès aux réseaux sociaux au moins de 15 ans comme ailleurs, notamment en France? C'est le sujet que nous abordons avec Maître Ruffin Luco. Il est juriste, co-rédacteur de la loi sur le numérique, chercheur à l'université de Kinshasa et auteur de plusieurs ouvrages. Maître Ruffin Luco, bonjour.
Bonjour Jocelyne, bonjour à tous.
Vous voulez participer à cette émission, composez les 085 42 11 547, 085 42 11 547 ou nous laissez un commentaire sur notre page Facebook Okapi Service. Benjamin Moudoubi réalise cette émission, Sylvain Barguerre est à la mise en onde sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, mais chaque Boutamoutou assure la diffusion sur nos plateformes numériques. Et moi, je suis Jocelyne Moussa Okondé.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place centrale dans le quotidien des enfants et des adolescents. Communication, divertissement, information, mais aussi exposition au contenu violent, à la désinformation, au cyberharcèlement ou encore à l'atteinte à la vie privée. Les enjeux sont nombreux et parfois inquiétants. Face à ces risques, plusieurs pays ont engagé une réflexion sur la régulation de l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, allant jusqu'à envisager ou instaurer des restrictions d'âge. En France, notamment, le débat sur l'interdiction de l'accès aux réseaux sociaux au moins de 15 ans s'est intensifié au nom de la protection de l'enfance. En République démocratique du Congo, la question se pose également. Faut-il interdire ou limiter l'accès de moins de 15 ans aux réseaux sociaux? Une telle mesure est-elle juridiquement faisable et socialement pertinente? Comment concilier protection de l'enfant, liberté d'expression et réalité numérique actuelle? Nous répondons à ces questions avec Maître Ruffin Luco, juriste, co-rédacteur de la loi sur le numérique, chercheur à l'université de Kinshasa et auteur de plusieurs ouvrages. Maître Ruffin Luco, pourquoi la question de l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans se pose-t-elle aujourd'hui avec autant d'insistance?
Voilà, donc merci Madame Jocelyne pour l'invitation. Et je crois que la question se pose tout simplement parce que nous n'avons pas anticipé. Donc, aussitôt que la loi avait été prise, nous devrions immédiatement procéder à l'interdiction. Parce que lorsqu'on parle de liberté d'expression, généralement, cette liberté d'expression, c'est à plus de 18 ans que vous avez la liberté de vous exprimer. En dehors de ça, vous êtes, comme on dit, sous-administrateur des parents ou sous-administration des parents, ou, n'est-ce pas, des écoles, en dessous de 18 ans. Donc, si vous parlez donc de la problématique de l'interdiction, face notamment à la liberté d'expression, vous voyez, donc ça s'est heurté, la possibilité aurait dû déjà être offerte à la République ou au pouvoir public de procéder, n'est-ce pas, aux mesures portant protection de notre jeunesse, que vous appelez les enfants, par rapport aux assauts des réseaux sociaux, notamment qui entraînent la dépendance comme à la drogue, comme à d'autres méfaits que nous déplorons dans plusieurs sociétés. Mmh. Vous vous rappelez, par exemple, chez nous, ici au Congo, et notamment, cette antenne ici, cette chaîne a été parmi ceux qui ont pris le devant pour combattre les phénomènes qu'on avait appelés, qui faisaient que les gens, lorsqu'ils prenaient ces drogues-là, on appelait ça comment?
Bombé.
Bombé. Vous vous rappelez, lorsque nous tous, nous avions, avec Radio Okapi, n'est-ce pas, se sont révoltés par beaucoup d'émissions. Le gouvernement, par sa police, a fait des descentes à la source. Mmh. N'a pas seulement combattu ceux qui consommaient cette drogue-là, est allé à la source, vous vous rappelez, tous ces expatriés-là qu'on avait attrapés avec des usines à Kitambo Maga, à Kitambo ici, à Bandal et à Selembao, qu'on avait attrapé d'autres, même à ma campagne, dans des maisons qu'ils avaient louées. Et on a donc éteint, on appelle ça la prophylaxie, par la source. On a donc éradiqué le phénomène par sa source. Et vous voyez, donc l'impact des bombées n'est plus remarqué dans la ville, parce que tout simplement, le pouvoir public avait décidé de prendre les devants. Alors, en ce qui concerne ce que vous dénoncez là, ce que Radio Okapi dénonce encore aujourd'hui, l'exposition de la jeunesse face aux réseaux sociaux, ça devient une calamité. Qui est ce parent là qui ne s'amène pas dans ces mouvements de ce que ces enfants, aussitôt qu'ils ont le téléphone, d'ailleurs dans la plupart des maisons aujourd'hui, les enfants ne suivent même plus la télévision.
La télé ne sert plus à rien.
La télé ne sert plus à rien, parce que chaque enfant avec son téléphone, et surtout pour les parents qui ont peut-être, je ne sais pas si je peux appeler ça comme mettre l'erreur, de mettre le wifi dans la maison. C'est-à-dire que pour permettre
ça l'accès. Ça devient une erreur.
Vous voyez, non, bon, hélas. Alors que ça devait être une faveur, un développement.
Ça devait être utilitaire.
Utilitaire. Maintenant, aujourd'hui, ça devient en quelque sorte, ça devient, parce que finalement, qu'est-ce que ça fait? Parce que les enfants ne pouvaient pas suivre ces contenus-là qui étaient appelés, de votre monde. Je dis tout le contenu. Ils préfèrent être en chambre. Et lorsqu'ils sont en chambre, c'est la famille qui est isolée maintenant. Ça
devient chacun dans son coin.
Chacun dans son coin. Et surtout si ils sont nantis.
On se parle pas, on communique pas.
Ils sont nantis que les enfants, les garçons ont leur chambre, les filles ont leur chambre. Et plus ou moins dans chaque chambre, il y a des lits en étage où chacun peut être
sur son lit. Chacun a son lit.
Eh bien, je suis para. Jocelyne, vous êtes para, hélas. Donc ça veut dire, je suis en train de me résumer. Nous n'avons pas anticipé. La loi, aussitôt prise, la loi sur le numérique, nous donnait les armes pour, par exemple, le ministère de la Jeunesse. Donc, le ministère concerné, c'est principalement le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Jeunesse et Famille, ou le ministère des Affaires Sociales. Ça pourrait être un arrêté interministériel pour interdire. Et si on ne peut pas interdire globalement, Jocelyne, on pourrait tout simplement, par exemple, s'attendre avec... à l'époque on appelait ça Renatelsat, je ne sais pas quel est son nom actuellement. Donc la possibilité pour tout enfant au-delà de 19h.
Mais est-ce
qu'on désactive
juridiquement cela est permis? Est-ce que techniquement cela est possible?
Voilà, donc juridiquement d'abord rien ne s'y oppose. Juridiquement rien ne s'y oppose. Techniquement, maintenant, c'est... je ne sais pas, ce sont les techniciens qui nous écoutent et qui pourraient intervenir.
Oui.
Techniquement, il faut donc la possibilité, comme on l'a fait en Chine. Vous avez parlé de la France. Moi, je vous renvoie en Chine. Peut-être beaucoup n'aiment pas la Chine, parce que la Chine, ses mesures sont sans commentaire. La Chine et la Corée du Nord. Mais vous voyez combien ils protègent les enfants. C'est-à-dire, parce que c'est l'avenir de demain. C'est le Congo de demain que nous devons... Nous avons cette funeste habitude. Lorsqu'on a un boom économique ou comme un boom minier pour le Katanga qui a eu lieu, nous avons oublié, comme ça nous avons oublié les générations futures. C'est-à-dire, nous consommons maintenant et tout de suite tout ce qui sort. Tout ce qui est généré. Les générations futures.
On ne pense pas à l'avenir.
Non, c'est-à-dire, c'est maintenant un standard international de, pour toute explosion économique, il faut penser aux générations futures. Parce, par exemple, pour tous ceux qui nous suivent au Haut-Touélé, en province orientale, dans l'exploitation de Kibali Gold, dans la redevance qu'il verse au gouvernement, il y a 10% des générations futures. Donc ça doit être géré pour ceux qui arriveront demain et après-demain. C'est important. Donc ce que nous faisons aujourd'hui sur nos enfants en termes de leur protection, c'est pour protéger notre population demain, c'est-à-dire la jeunesse d'aujourd'hui qui est l'avenir de demain, comme on nous l'a dit dans les années 60-70, que nous sommes la jeunesse et nous sommes l'avenir du pays. Et puis depuis, cette jeunesse-là s'est débrouillée jusqu'à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut que des mesures soient prises. Et parmi ces mesures, l'interdiction, je disais, par exemple, de crocher qu'à partir de 19h, les réseaux sociaux ne passent plus. Vous voyez? La communication, donc les autres moyens de communication peuvent être disponibles à ces heures-là, mais à ces heures-là, c'est pour la concentration des enfants, les études et les sommeils.
Et le repos.
Les gens ne dorment plus, madame et Jocelyne. J'ai parlé d'ici, je m'adresse aux parents que vous êtes, que nous sommes. Les gens ne dorment plus dans les maisons à cause des réseaux sociaux.
Surtout les enfants.
Les enfants, hélas.
Avec leur téléphone dans les
nous
chambres.
Nous parlons ici des enfants.
On peut les surprendre à 2h du matin en train de...
Moi, je le fais chaque jour. Je le fais chaque jour. Donc, je deviens gendarme à la maison.
Faut-il interdire ou pas l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, comme ailleurs? C'est notre sujet avec notre invité, Maître Ruffin Louco, 085-42-11-547. C'est notre numéro de contact. Et nous avons un auditeur en ligne, Blaise Saïdi Atoubou, qui nous appelle depuis Kisangani. Bonjour, Blaise.
Bonjour madame, je suis. Bonjour à l'invité. J'ai essayé d'essayer des thématiques très intéressantes. Je dois économiser le temps et juste une petite contribution afin de poser quelques questions. Oui. Donc, je pense qu'interdire complètement les réseaux sociaux au moins de 15 ans serait difficile à appliquer. Il vaut mieux limiter et contrôler leur utilisation, tout en responsabilisant les parents et les écoles dans l'accompagnement des jeunes. La première question, l'école intégrée de l'éducation numérique, les âges,
on vous suit plus. Blaise Saïdi, on n'arrive plus à vous capter, mais on a retenu l'essentiel de votre préoccupation. Est-ce qu'il faut limiter ou interdire cet accès aux moins de 15 ans? On va prendre aussi Ruffin Bonso qui nous appelle depuis Likasi. Ruffin Bonso, bonjour. Ruffin Bonso, essayez de vous déplacer parce qu'on a du mal à vous capter. Difficilement, malheureusement, on va répondre à Blaise Saïdi et tenter de rappeler Ruffin Bonso pour prendre sa préoccupation. Maître Ruffin Louco, qu'est-ce que vous répondez à Blaise Saïdi qui pense qu'il faut plutôt limiter
et responsabiliser les parents.
Voilà, plutôt que interdire complètement.
Bon, t'as dit, c'est par expérience. Parce qu'en fait, en particulier sur ces antennes-ci, nous avons principalement puisé dans l'expérience de tout le monde pour donner des propositions. Si on laisse les parents, ils sont isolés, ils n'ont pas assez d'armes. Les parents ont l'autorité sur les enfants, pas tous. Les parents ont l'autorité sur les enfants, pas dans tous les cas. Et donc, si on laisse le parent seul et que le pouvoir public ne les appuie pas par une bretelle, une passerelle. La passerelle, c'est l'interdiction publique. L'interdiction publique, c'est-à-dire par des mesures gouvernementales. Vous voyez, par exemple, ce que je vais les proposer là. À certaines heures de la soirée, pas des réseaux sociaux du tout. Vous voyez, on nous les fait facilement pour le courant. Pourquoi on peut nous couper le courant, par exemple, actuellement, pourquoi on peut nous couper le courant toute la nuit, comme ça? Et on ne peut pas nous couper les réseaux sociaux, par exemple. Par exemple, parce que au moins, comme tu l'as dit, tu as utilisé le terme utilitaire. Madame Josse, ça c'est utilitaire. Est-ce que nous couper le courant la nuit, c'est utilitaire? Parce qu'il y a, des entreprises, des jeunes, qui, elles, la nuit, fonctionnent. Et c'est la nuit où ils produisent pour vendre le matin. C'est-à-dire, ils ont besoin du courant la nuit. Alors si on paye du courant, parce que la plupart des coupures qu'on nous fait la nuit, ce sont des coupures, des délestages, c'est-à-dire volontaires. Alors, on paie dans les mêmes conditions. Je suis en train de répondre donc à Godefroy. On paie dans les mêmes conditions. Je parle, Godefroy, des airs. Et ça, ce ne sont pas les mesures des parents. C'est donc un renforcement des parents. Des mesures gouvernementales à tous, présents à venir. Donc, c'est-à-dire que, vous, quel que soit là où vous êtes, vous nous avez appelé de Kisangani. Godefroy a appelé de Kisangani.
Non, Blaise Saïdi plutôt, de Kisangani.
Voilà, c'est lui à qui nous répondons, c'est Godefroy.
Non, c'est Blaise Saïdi.
Qui nous a appelé de Kisangani. Alors, Blaise, vous nous avez appelé de Kisangani. Par exemple, si la mesure est prise à Kinshasa ici, vous de Kisangani, vous aurez reçu un appui du gouvernement par la mesure. Ça veut dire que de 19h à 10h, par exemple, à 22h, parce que là, ils seront déjà au lit, eh bien, pas des réseaux sociaux. Je parle, donc, nous sommes en train de proposer, comme on dit à haute voix, vous les auditeurs, vous nous suivez, vous allez également nous ajouter d'autres propositions parce que vous êtes dans les champs de l'action. Donc, nous proposons ce que nous estimons comme étant les débits des mesures qui peuvent nous aider maintenant. Et il faut que ça soit pris maintenant. Il ne faut plus que nous perdions du temps parce que la dépendance est en train de se consolider de telle sorte que le seul moment où nous essayons d'arracher le téléphone aux enfants, c'est extraordinaire. Les enfants peuvent prendre les armes dans la maison pour dire c'est plus possible d'accepter la mesure de papa, la mesure de maman. Donc, il faut que maintenant que nous avons encore la possibilité de faire quelque chose, que ces mesures soient prises par le gouvernement.
On va avoir Ruffin Bonso qui est de retour. Il est à Likassi. Ruffin, on espère que la liaison, la qualité de la liaison s'est améliorée. On vous écoute.
Oui, allô, Madame Jocelyne Moussao. J'aimerais saluer aussi mon homonyme Ruffin Louko de Kinshasa, le maître.
Je vous salue.
Oui, pour moi, ma préoccupation est la suivante. Aujourd'hui, si on est en train de parler de l'interdiction des réseaux sociaux aux adolescents de 15 ans, par exemple, je crois bien que l'unique chose qui doit entrer en jeu, et surtout ici chez nous au Congo, c'est la discipline qui doit convenir de leurs parents, premièrement, parce que ce sont les parents qui leur donnent des téléphones portables. Que non, je te donne ça, c'est ton cadeau, ça, ceci, c'est là parce que tu as réussi avec un grand pourcentage. Mais je suis sûr et certain qu'après avoir lui donné ce téléphone-là, il y aurait un contrat amer. Et ce contrat-là va provenir de quoi? De la distraction liée à ce cadeau-là, les téléphones portables. Oui. Je crois bien que demain ou soit le lendemain, l'enfant faisait, moi je ne sais pas, de 80 de pourcentage, et il va commencer à obtenir des 70 des 60, et là c'est la réduction. Les parents doivent constater que non, ça c'est une grande distraction. Au lieu de que l'enfant puisse étudier, par exemple, la nuit, mais il va commencer à jouer avec les téléphones. Et puis, dans ces téléphones-là, il y a d'autres choses qui sont en train vraiment de créer de l'immoralité au niveau des enfants. Il y a par exemple des photos vraiment mal intentionnées.
Des contenus non appropriés.
Vous voyez. Non appropriés, effectivement. Donc pour moi, j'aimerais intervenir avec cette grande question. Et que, en commençant d'abord par les parents, qu'est-ce que l'être Louko Ritva, mon homonyme, pourra donner comme conseil aux enfants, parfois, aux parents, qui sont en train d'acheter des téléphones aux enfants. Et puis, d'aider, comme si les parents aussi vivent dans une grande distraction, ils laissent parfois des films non appropriés dans leur téléphone, et que les enfants, lorsqu'ils regardent cela, et puis ils sont en train de le développer au lieu. Parfois d'étudier convenablement, ils sont en train vraiment de gagner de telles distractions. Et qu'est-ce que maître Louko pourra donner vraiment comme conseil à des tels parents? Parce que nous sommes en train de voir, de connaître que ce sont les parents qui sont à la base de tout ça. Merci beaucoup, c'est Ruffin Bonso et Bantou à Likassi.
Merci beaucoup, Ruffin Bonso depuis Likassi. Maître Ruffin Louko.
Merci, merci Jocelyne. Sa question est très technique, hein. Vous voyez que c'est un para, comme nous avons dit que non, oui. Et peuvent nous donner encore d'autres propositions plus pratiques que peut-être l'État ici ne nous permettra pas d'en donner toutes les propositions. Oui. Alors, il parle de ces difficultés pour les parents de donner uniquement des téléphones comme cadeau pour l'enfant qui a bien réussi. Au lieu de lui donner un livre, un livre, ouvrage,
oui.
Ou bien lui donner, par exemple, à l'époque, nous, on nous donnait
Un jeu de société.
Je vais aussi vous rappeler, on nous donnait des petits postes de radio. À l'époque, pour les infos, oui. Pour suivre les infos. Oui. Aujourd'hui, maintenant, c'est le téléphone. Et ça devient tellement dévastateur que tous les parents, et je crois que c'est un phénomène de monde, tous les parents préfèrent Madame Jocelyne, pas même un ordinateur, par exemple. Un ordinateur, ça serait encore plus bénéfique que le téléphone. Je crois qu'il touche là une question fondamentale. C'est l'effet de la mode. Il touche là une question fondamentale, ça veut dire nous devenons les incitateurs en donnant des téléphones. D'abord, la question, je crois que vous avez posé une bonne question au départ, madame. À quel niveau doit-on permettre aux enfants d'avoir des téléphones? Cette question-là n'est pas résolue chez nous. À quel niveau d'âge? à quel âge un enfant devra-t-il avoir la possibilité de se voir un téléphone? Je me rappelle de mon expérience que j'ai eue au Canada, ici où j'étais enseignant, là-bas. J'ai constaté que dans les méthodes pédagogiques, les enfants sont libres de déranger. Et pour les calmer, on leur donne l'accès aux ordinateurs qui sont connectés. C'est-à-dire, lorsque vous voulez qu'ils se calment, vous dites, ok, pour que vous êtes bouillant, c'est le terme.
Ça, c'est
vous
un peu l'impuissance des plus grands.
Et là, c'est ce que j'ai constaté. Ça veut dire, nous nous retrouvons presque dans la même situation où, à la place de donner un ouvrage, un livre. Nous, je me rappelle avec Zamenga Batukezanga. Et ceux qui se rappellent de mon ami Noé, avec mon ami Paul. Ces livres-là, ce sont les livres qu'on nous donnait. Et les romans pour les filles, Arlequet, vous vous rappelez, Jocelyne, et toutes les dames qui nous suivent, on donnait des romans à lire. Et déjà, lorsque papa et maman venaient avec les romans de Kinshasa, pour les provinces, de l'Europe pour Kinshasa, c'était un grand cadeau que papa vous amenait. Vous aviez déjà lu les deux séries de romans, les suivantes. Vous en aviez besoin. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, tout ça, ça disparaît. Vous voyez? Et c'est donc le drame. C'est pourquoi j'estime que par rapport à la faiblesse des parents que Riffé Bonso a qualifié en quelque sorte d'incitateur, parce que ce sont eux qui donnent le téléphone aux enfants de l'école primaire, de l'école secondaire, c'est selon. Comme ils sont devenus faibles, il faut que l'État intervienne. Par des mesures qui vont relancer le souffle aux parents, qui vont donner, n'est-ce pas, qui vont renforcer les capacités, comme on dit, dans un terme actuel, dans un terme de fraude de guerre, et renforcement des capacités, et renfort. Ça veut dire, les unités qui sont sur le terrain ne fonctionnent plus, ces unités-là, ce sont les parents, n'opèrent plus valablement, un renfort viendrait du gouvernement par des mesures robustes, notamment aux écoles, pas de téléphone, par exemple dans les écoles. Pourquoi les enfants doivent venir avec des écoles de téléphone? Par exemple, on peut faire que, à la place des téléphones individuels des enfants, que les écoles soient dotées. Moi, je sais que certaines sont déjà dotées des écrans numériques ou qui sont connectés sur Internet. Si vous voulez, en pédagogie, telle matière par écran, au lieu que ça soit fait sur le téléphone, que ça soit fait par l'écran, n'est-ce pas, qui est dans la classe. Donc, je crois que c'est plus facile que le gouvernement intervienne pour renforcer les parents, notamment par des mesures comme ça, et doter beaucoup d'écoles, certaines écoles, ou des centres, si les écoles ne peuvent pas avoir des centres où les enfants peuvent aller pour consulter des choses de leur éducation par éclairage dans la classe que plutôt utiliser leur téléphone. Il faut donc qu'on interdise les téléphones à l'école. Il faut que ça soit, parce que je sais que certaines écoles l'ont déjà fait. D'ailleurs, les écoles catholiques, la plupart, les téléphones ne sont pas acceptés. Vous avez vu dans les images des réseaux sociaux où des sœurs étaient en train de casser les téléphones qu'ils ont saisis entre les mains des enfants. Et donc, il faut que ces mesures-là soient renforcées pour protéger notre société. Il y a péril à l'endemain. Il faut absolument qu'on agisse maintenant.
On va prendre Gustave Kabea qui nous appelle de Dibaya. Il est au Kassai Central. Bonjour Gustave Kabea.
Bonjour madame. Bonjour également à l'invité.
Bonjour.
Et à la radio Capi.
On vous écoute, Gustave.
Également.
Est-ce que vous pouvez éteindre le poste, votre poste récepteur, parce qu'on a un retour qui n'est pas agréable. Venez nous suivre à partir de votre téléphone.
Merci beaucoup, je m'éloigne. Merci beaucoup, madame. Je passe maintenant, ça va.
On vous écoute.
Oui, mon intervention, je voudrais d'abord la poser sur la thématique. Vous parlez des deux concepts, l'interdiction et la limitation. Je suis pour l'interdiction de l'utilisation des réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas parler du téléphone. Le téléphone ne se limite pas à l'utilisation des réseaux sociaux, il y a d'autres besoins. Mais s'il faut parler des réseaux sociaux, je suis pour l'interdiction. Et aussi, je voudrais que vous puissiez ne pas parler de seulement moins de 15 ans, mais parler de moins de 18 ans. Donc, tous les mineurs, ils peuvent être soumis à un régime d'interdiction. D'autant plus que les contenus qui sont mis sur les réseaux sociaux, dans notre pays, je ne sais pas, nous n'avons pas l'expérience par rapport à d'autres pays, dans notre pays, les réseaux sociaux ne sont soumis à aucun contrôle. Il n'y a aucun régime de contrôle. Les contenus qui sont mis sont soit violents, soit à caractère innovant et tout ce qui en va. Alors, lorsqu'on dit que les mineurs peuvent, les enfants peuvent être sur les réseaux sociaux, on n'a pas la possibilité de contrôler les contenus qu'ils voient, surtout quand ils sont seuls, ils se retirent dans leur chambre ou dans des endroits où ils se retrouvent seuls. Mmh. Mais maintenant, la question que je voudrais poser à l'invité est celle de savoir comment est-ce qu'on peut y parvenir? Parce qu'on se réveille un matin, on ouvre un compte Facebook, on ouvre un compte WhatsApp et tout ce qui va. Mmh. Comment est-ce qu'on peut y parvenir? Est-ce qu'il y a des mécanismes à mettre en place pour savoir que la personne qui ouvre le compte est effectivement mineure? Parce qu'on sait mentir l'âge. Mmh. On a l'habitude de demander l'âge, mais quelqu'un peut mettre un âge qui ne correspond pas à la réalité. Mmh. Quels sont les mécanismes qu'on va mettre en place cette fois-là pour effectivement contrôler et interdire les mineurs d'une manière automatique pour ne pas leur permettre de mentir s'ils veulent, enfin de se retrouver sur les réseaux sociaux pour voir les contenus que nous voyons, que nous déplorons chaque jour ici, qui dépravent déjà leur morale. Aujourd'hui aussi, je peux ajouter, avec l'intelligence artificielle, ça diminue le niveau, la capacité intellectuelle de plusieurs enfants. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une difficulté grammaticale, parce que quand on écrit dans un téléphone avec l'intelligence artificielle, on peut corriger un texte d'une manière automatique. Alors que nous, quand on avait étudié, on nous disait que quand vous commettez une faute, nombre de fautes, nombre de souhaits, par exemple, même si ce n'était pas une bonne méthode. Aujourd'hui, l'enfant a la facilité d'écrire un texte qui répond à la réalité, mais alors que ce n'est pas un texte qui vient de son cerveau, c'est un texte généré par l'intelligence artificielle. Dans notre pays, nous avons encore beaucoup de difficultés. Le secteur de la télécommunication n'est pas du tout réglementé. On y va comme chacun dans ce qu'il veut, chacun met ce qu'il veut, chacun lit ce qu'il veut. Alors, c'est ça la question que je voudrais que l'invité puisse un peu nous préciser. Quels sont les mécanismes à mettre en place pour effectivement interdire, restreindre la participation des mineurs à l'utilisation des réseaux sociaux?
Merci beaucoup, Gustave Kabea. Nous allons prendre Jeannot Louembwe, qui nous appelle depuis le Lualaba. Bonjour, Jeannot.
Bonjour, madame. Vous m'entendez bien?
Oui, on vous capte.
Oui, bonjour, madame. Bonjour, l'invité, à tous les auditeurs. Merci du choix fait sur le thème. Hein.
Merci.
Eh bien, il fallait qu'on en parle, parce que avec les réseaux sociaux, vraiment, c'est devenu comme sur un rond-point où tout le monde passe avec son éducation, soit ratée, soit réussie. Et malheureusement, ce sont ceux qui ont raté l'éducation qui y sont et qui sont en train de prendre l'ascendance ou séduire nos enfants. Parce que regardez déjà que sur Internet, aujourd'hui, il y a un défi, excusez-moi madame, qui s'est fait aujourd'hui entre nos jeunes sœurs où ils passent carrément dit pour pouvoir exhiber de leur tout ce que Dieu leur avait donné. Imaginez que nos enfants tombent sur ça, ça voyez déjà que ça va dans tous les sens. Interdire le téléphone, je ne pense pas, parce qu'on a aujourd'hui besoin de communiquer avec nos enfants, mais l'internet, oui, cet internet personnel, je veux dire, où l'enfant est seul avec son téléphone intelligent, en train d'entrer où et n'importe où, ou et n'importe comment, je voulais dire, ça vraiment, il faudrait l'interdire, parce que il y a plus le mal que le bien sur Internet aujourd'hui. Peut-être permettre l'Internet en commun, c'est-à-dire vous avez un ordinateur qui est à la maison, pour leur permettre de pouvoir faire le devoir de recherche que vous allez leur permettre de faire ensemble avec les parents. Et là, quand même, ça va, c'est de leur permettre d'avoir chacun son Internet en poste. Là, c'est pas vraiment intéressant. Même pour certains adultes. Bon, si nous parlons des enfants, c'est mieux de leur interdire carrément l'internet personnel en poste. Je parle du téléphone. Pourquoi pas leur donner le téléphone sans internet pour les appels? Mais quand ils leur voudraient avoir internet pour des recherches scientifiques, qu'ils les fassent en famille avec le donateur de la famille, sous l'assistance des parents. Sinon, aujourd'hui, madame, je vous dis, c'est plus intéressant même pour nous, les adultes, d'être sur Internet, parce qu'il y a plus pour nous chrétiens de péchés que d'idées qui devraient nous aider à pouvoir aller de l'avant. Voilà un peu ma petite contribution. Sinon, c'est une bonne initiative d'interdire carrément. Interdire. Quand on dit interdire, c'est pas le fait comme dans le film, mais est-ce que tu peux arrêter ton téléphone? Non. Il faut interdire à l'africaine. écouter, mais être viré.
Être ferme.
Être ferme et qu'ils aient la chance de grandir comme nous grandissions quand nous étions enfants.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Jeannot Louembwe, Maître Ruffin Louko, Jeannot Louembwe et Gustave Kabea sont pour l'interdiction, carrément, pas la limitation, l'interdiction. Ouais. Et Gustave disait même qu'on devait étendre ça jusqu'à à 18 ans, pas seulement pour le moins de 15 ans, mais pour le moins de 18 ans. Mais comment y parvenir?
Et c'est la grande casse-tête. Comment
voilà, Jeannot Louembwe qui pense qu'il faut plutôt privilégier Internet sur les PC, les ordinateurs, PC, plutôt que d'avoir
ou bien Internet, les téléphones sans Internet.
Téléphone sans Internet, tout carrément, fait, sans réseaux sociaux et sans d'autres outils, applications comme l'IA, nous disait Gustave Kabea. Qu'est-ce que vous répondez à nos auditeurs?
Non, vous voyez que nous avions raison de les faire confiance, qu'ils ont, ils sont dans les champs de l'action. Mmh. Ils ont encore d'autres réalités. Mais de l'ensemble de ces questions et de ces constats, le parent est devenu plus ou moins tout simplement impuissant face au phénomène qui lui tombe sur la tête.
Il est dépassé.
Totalement. Parce que et vous irez dans d'autres couples où papa n'est pas d'accord, maman, elle est d'accord. Mmh. Vous voyez, de laisser les enfants avec leur téléphone. Mmh. Vous voyez, donc c'est un cauchemar aujourd'hui. Et si nous ne prenons pas de mesures maintenant, t'as dit, c'est genre de choses, il faut être à jour, il faut, comme on dit dans les termes numériques, il faut être en temps réel, des mesures. Mm-hmm. Parce que maintenant, déjà, nous étions embourbés par les réseaux sociaux, vient s'ajouter l'intelligence artificielle. Vous voyez, dans le tourbillon des vies océanique. Mmh. Donc ça veut dire maintenant que qu'est-ce qu'on fait là? On n'avait pas encore réglé la question des réseaux sociaux. Celle, maintenant c'est intelligence artificielle. Et donc, ça devient un cauchemar qui se décuple, alors que nous devrions déjà prendre des mesures. Il faut, j'ai dit ici, Monsieur Kabea et Jeannot, j'ai dit que le para-état déjà, vous le confirmez, le para-état déjà débordé.
Mais comment y parvenir?
Comment y parvenir, c'est d'abord les mesures essentielles du gouvernement, du pouvoir public. Mm. Donc, sur le pouvoir public, prend d'abord certaines mesures. Par exemple, j'ai dit, on peut choisir les heures de nuit où les couvertures réseaux sociaux et intelligence artificielle décrochées, techniquement. Mm.
Vous en voyez collaboration avec les sociétés de télécommunications.
Non, les sociétés de télécommunications doivent se soumettre. Mm. Parce que ce sont les opérateurs qui donnent ces services-là et qui détruisent la population pour la plupart. Mm. On peut considérer les réseaux sociaux aujourd'hui, non, les opérateurs comme étant des fabricants de bombes maintenant.
Des dealers
maintenant. Donc, c'est-à-dire, bon, pas en général, mais en tout cas, en ce qui concerne la qualité de ce qu'ils offrent. Regardez par exemple, par exemple TikTok. Ce qu'ils offrent à la jeunesse. C'est extraordinaire.
Mais est-ce que le problème n'est pas l'orientation? Parce qu'il y a quand même des contenus
éducatifs.
Éducatifs.
Oui, naturellement, mais attends, madame. C'est parce que peut-être vous n'avez pas parlé de l'ensemble de la problématique. Mm. Ce qu'on appelle contenu éducatif. Lorsque, je vous donne un exemple pour que nous soyons terre à terre avec nos auditeurs. Mm. Lorsqu'on dit voici les cinq secrets pour vivre longtemps. Vous les enregistrez, donc vous les avez écoutés. Mmh. Et un contenu qui suit, voici les 15 secrets pour vivre longtemps. Les 15 là effacent les 5. Donc, et puis quelques minutes après, voici les 2 clés magiques pour vivre longtemps. vous n'en recevez plus rien d'autre. Ça veut dire, le nombre de contenus, l'affluence des contenus sur la même intelligence efface tout le contenu.
Ouais.
Et ça, c'est pratique. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on nous offre? Même ce qu'on dit que non, c'est un contenu éducatif. Vis l'abondance. Parce qu'à l'époque, c'est toi qui choisissais. Rappelez-vous, madame, je ne sais pas si c'est pas si loin que ça. C'est toi qui choisissais ce que vous allez suivre. Mm. Maintenant, aujourd'hui, les contenus vous pourchassent systématiquement. Et donc, c'est à volo. Donc, c'est l'un après l'autre. Mm. Et vous n'avez pas de choix. Ça veut dire, vous n'avez pas de choix.
Mais même pas le temps d'assimiler.
Non seulement l'état d'assimiler, mais vous n'avez tout simplement pas le choix. Mm. Alors donc, c'est plus fort que nous tous. Il faut des mesures. Il faut un renfort. C'est-à-dire, Nous sommes au pied du mur. Il faut un renfort. Le renfort, c'est le gouvernement. Il faut des mesures fortes. Vous voyez, l'un des auditeurs a dit que non. Il faut être très ferme. Il faut des mesures fortes.
À l'africaine, comme il disait.
Et il a parlé à l'africaine.
Non, on va prendre Olivier Ndoumba.
Avant de prendre Olivier, ça veut dire, à l'africaine signifie, comme nous avons grandi, il faut un peu d'énergie. Pas comme à l'occidental, non. Faites comme vous voulez. Ce qui vous fait plaisir.
Il faut s'imposer.
Il faut la manière forte à l'africaine. Il avait raison par ce terme-là.
Voilà, on va rejoindre Olivier Ndoumba et Lalou qui nous appelle de Kisangani. Bonjour Olivier Ndoumba.
Bonjour la radio de la paix et bonjour à vous notre très chère madame la journaliste Joseline. J'ai profité également faire gros coucou à votre invité Monsieur Refeloko et à la grande équipe technique de Capi Service.
Merci.
Nous vous saluons également.
Quelle est votre oui. contribution à cette émission et des préoccupations s'il y en a?
D'abord, merci pour cette énième fois de m'associer à cette grandiose émission. Nous saluons avec succès la thématique du jour, car elle est vraiment à la ligne dans notre vie quotidienne. Chère madame la journaliste, les réseaux sociaux sont des canaux de communication qui relient le monde grâce quasiment aux appareils communicationnels. D'après moi, c'était juste une idée venant de moi, et seulement les ados ont du mal de les utiliser faute de mauvais usages comme un produit qui suit d'avis qu'on interdise aux ados, c'est-à-dire aux adolescents, hein, à l'accès aux réseaux sociaux. Alors, si l'invité peut nous éclaircir sur cette tonne de mes préoccupations, malheureusement, c'était de mes prédécesseurs ont presque tout brossé. Et de manière beaucoup plus concrète techniquement, comment peut-on réellement limiter les accès aux adolescents? Voilà. Il y a même certains ados où ils n'ont même pas des smartphones, mais ils possèdent quand même des comptes, tu vois. Alors, d'une manière très technique, comment on peut réellement arriver à mettre une fin par rapport à cette désolation de tout ça? Et puis, La deuxième préoccupation, quelle directive donnerait-il, lui étant notre invité, étant que spécialiste également dans ce domaine dont on parle aujourd'hui. Et j'aimerais finir cette dernière préoccupation, là ça concerne la radio Capi, ça c'est ma radio préférée, hein. Une dernière préoccupation. Là maintenant, elle concerne la radio Capi. Pourquoi nous ne suivons plus nos émissions en rediffusion? Ah voilà, parce que comme par exemple là aujourd'hui, je me suis fait une violation d'état pour y être un peu à la ligne par cette émission. C'était votre humble auditeur, ingénieur Ndoumba et Lalou Olivier depuis la ville de Kisangani. Merci.
Merci beaucoup Olivier Ndoumba pour ce qui est de rediffusion. En tout cas, ça continue. Hein. Ce soir même, si vous voulez suivre cette émission au Capi Service sur nos antennes, vous le suivrez. Et même sur nos plateformes digitales, si vous voulez aller sur YouTube, vous retrouverez cette émission à tout moment. Et même sur notre site internet www.radiocapi.net, vous pouvez également suivre la même édition. Donc vous avez plusieurs moyens de nous suivre en direct sur Facebook et sur Twitter. Nous suivons en direct, en rediffusion en FM et sur nos plateformes digitales. Maître Ruffin Louco, nous allons répondre à Olivier, mais prenons d'abord Maître Omar Kigalo qui nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour Maître Omar.
Bonjour Madame Jocelyne. Bonjour également à Maître Ruffin Louco.
Bonjour.
Je m'appelle Maître Louco parce que là, seulement avocat, c'est aussi mon mentor.
Bonjour Omar. Bonjour Omar et bienvenue.
Je vous en prie, cher maître. Madame Jocelyne, c'est un sujet intéressant. Quelqu'un disait les réseaux sociaux en soi ne sont pas mauvais, mais c'est l'usage qu'on en fait. Il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des avantages. Mais par rapport à l'émission, je soutiens totalement l'idée de l'invité maître Riffin. Et je m'en vais à l'article 6 de la loi qui protège l'enfant, la loi du 19-2009. L'idée que toute mesure qui doit prendre, qui doit être prise dans l'État, doit d'abord l'être pour l'intérêt primordial de l'enfant. Et l'article 24 de la même loi dit, l'enfant a droit à une éducation à la vie qui doit être conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. C'est un impératif légal. Voilà pourquoi je soutiens son idée, soit de supprimer certains réseaux sociaux, soit de limiter l'accès aux enfants. Mmh. Pour moi, la première cause, c'est la négligence des parents. Madame Jocelyne, moi, la plupart de mes sœurs se sont mariées vierges. Pourquoi? Parce que maman les contrôlait chaque samedi. Mmh. L'éducation était au rendez-vous. Elles savaient que chaque samedi, maman va contrôler si on est toujours intact ou pas. Mmh. Elles ont eu peur. Aujourd'hui, les parents ont fui leur responsabilité. Mmh. Deuxième, c'est l'école. Vous savez, il y a des écoles qui obligent aux enfants d'avoir des téléphones. Aujourd'hui, les enfants viennent à la maison, il y a certains devoirs qui doivent être faits avec le téléphone. L'école est un lieu du haut savoir. Mes terrifères, nos aînés et nous autres, nous avons grandi avec les Romains, des Amènes et autres. On n'avait pas de téléphone, mais on a une meilleure éducation. L'école a fui, alors que la loi sur l'enseignement interdit l'usage du téléphone. Trois, c'est l'irresponsabilité de l'État. On a appris récemment au Burkina Faso, TikTok a été supprimé, simplement. Quelqu'un qui est célibataire vous donne 10 secrets pour demeurer dans le mariage. Un célibataire.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Quelqu'un qui n'a même pas une partage à l'école, mais vous dit, je suis contre la création des richesses.
Tout à fait, Omar.
Donc on a des choses comme ça, tout le monde passe.
C'est tout le monde qui enseigne maintenant.
Parce qu'il
c'est
faut proposer. Merci, maître. Moi, je pense proposer, madame, premièrement, il faut l'éducation numérique. Mmh. Aujourd'hui même, nous, avocats, on est face à cette épidémie numérique. Il y a beaucoup de réalités. On n'a pas d'abord formé les gens directement dans l'ancien. Mmh. Il faut une formation numérique depuis l'école. Comment utiliser les réseaux sociaux, quelle est leur importance. Deux, il faut une éducation des bases au niveau de chaque famille. Et enfin, je crois, il faut qu'il y ait un contrôle technique. Si vous lisez la loi sur le numérique de 2023, il y a plusieurs services, CNS, cybercriminalité, on peut contrôler. Mmh. Ils sont seulement là pour contrôler les politiques qui publient des choses sur X, qui insultent les chefs ou les autres. On ne peut pas. En France, par exemple, un enfant de moins de 16 ans n'a pas accès à l'Internet sans l'accord de ses parents, c'est certifié. Mmh. C'est faisable. Voilà pourquoi je chute en disant, maître, madame, ça va de mal en pis. Et notre société est détruite parce que les enfants ont des mœurs dépravées. Mmh. Il faut que l'État ajuste de manière immédiate. Soit supprimer ses comptes, soit limiter carrément l'accès au téléphone aux enfants avant 18 ans. S'ils ont des besoins numériques, nous parents sommes là, on va les orienter. Parce qu'avant 18 ans, l'enfant est supposé être vulnérable, immature. Voilà pourquoi lorsque un majeur couche avec une fille qui est mineure, on sanctionne pour le viol. Parce qu'on suppose qu'un enfant avant 18 ans n'a aucune maturité, n'a aucun discernement. Mm. Donc, l'usage doit être contrôlé ou carrément limité aux enfants pour l'avenir de la nation. Merci, cher maître. Je pousse totalement votre idée et je demande aux autorités publiques de vous suivre dans cet élan.
Merci beaucoup, maître Omar, pour votre intervention. Maître Ruffin-Lucot, vous allez répondre à maître Omar Kigalo et à Olivier Ndoumba qui nous avait appelé de Kisangani.
Merci Olivier, merci Omar. Omar, c'est comme on a dit que nous vous faisons confiance, c'est parce que vous êtes dans les chauds de l'action. Mmh. Vous êtes dans les chaudrons de ces trous bio-là. Si je peux commencer d'abord avec l'intervention de Olivier. Olivier a touché, n'est-ce pas, là où ça pose problème. L'accès. Comment limiter l'accès des ados aux réseaux sociaux? Et quels sont, il a parlé également des directives. Bon, évidemment, vous lui avez déjà répondu à ces questions de diffusion et il a quand même constaté également qu'il y a une réorganisation de Radio Okapi et donc ça nécessite quelques aménagements. Mais dans tout le cas, comme la réfusion existe encore, donc il n'y a pas de problème. Mm. Il faut suivre, c'est une masse à voir les airs que vous avez besoin de suivre l'émission. Et puis, maintenant, aujourd'hui, avec la possibilité de YouTube, vous pouvez suivre l'émission à tout moment que tu veux. Dès que l'émission a été, n'est-ce pas, balancée sur les réseaux sociaux, et puis vous pouvez le suivre quand vous voulez. Alors, en ce qui concerne, comment limiter l'accès? Nous avions dit que les parents sont devenus pour la plupart débordés. Mmh. Et même, maître Omar l'a constaté également. Les parents sont débordés. Maître Omar a parlé de leur démission. Ce n'est plus facile pour le parent de contrôler les enfants. Surtout, il vient d'ajouter un élément. Des écoles recommandent que les enfants aient des téléphones. Mmh. Pour tel devoir, pour tel homework, comme on l'appelle, donc travail à domicile, eh bien, il faut utiliser le téléphone. À l'époque, au dépit, c'était aller dans les cyber.
Dans les cybercafés.
À l'époque, au départ. Oui. Maintenant, c'est les téléphones
aller
à la maison.
Aller faire des recherches sur Internet.
Et le drame, c'est que même pour les parents qui achètent des unités aux enfants, en dehors de ceux qui mettent les Wi-Fi à la maison, l'enfant va épuiser les mégas sur autre contenu que celui du devoir. Mmh. Et puis, les parents aujourd'hui, qui est ces parents-là qui peut suivre l'enfant dans tous les contenus qu'il est en train de suivre. Qui est ce parent qui a
cet âme? Mais ailleurs, il y a quand même des applications hein, qui bloquent les contenus.
Mais ces applications-là ne sont pas individuelles. Nous avons parlé de l'intervention du gouvernement. Ces applications-là, dans leur robustesse, c'est le gouvernement qui décide. C'est important. Je n'ai pas voulu parcourir toute la panoplie de dispositions légales qui se trouvent dans la loi numérique. C'est trop savant. C'est-à-dire, je dis que cette loi-là a donné les armes. La loi portant protection de l'enfant, de 2009, et la loi sur le numérique, ont donné, de 2023, ont donné des armes au gouvernement, en fait que les mesures soient prises maintenant et tout de suite. Vous voyez, c'est cette loi-là qui a donné, qui a créé ces organismes, notamment le CNS pour la cyberdéfense. Il faut donc qu'à la suite de la création de tous ces organismes-là, des mesures soient prises pour la protection de l'enfant. Les parents n'en sauront pas, ils sont incapables aujourd'hui.
Mais que prévoit la loi congolaise sur le numérique? Qu'est-ce qu'elle prévoit comme mécanisme de protection des mineurs en ligne?
C'est en particulier les agences de régulation. Ces agences-là, ce sont elles qui ont pouvoir pour décider notamment que de telle heure à telle heure, évidemment ce sont des agences du gouvernement, de telle heure à telle heure, tel contenu est désactivé. Ce sont elles. Il n'y a personne d'autre. Ce sont ces agences-là créées par la loi. Ça veut dire, j'ai dit que nous avons perdu du temps. Évidemment, peut-être vous aussi, Radio Capi, vous n'avez pas imaginé ces émissions-là, ces émissions ici, bien avant, donc ça veut dire, aussitôt que la loi a été prise, pour que déjà nous alertions. Même les membres du gouvernement, nombreux ne savent pas qu'il y a telle loi. Ils sont nombreux, nous les constatons chaque jour sur ces antennes, que même les membres du gouvernement ne sont pas au courant qu'il y a telle loi qui lui a donné des obligations ou des armes pour prendre telle ou telle autre mesure. Beaucoup de mesures ont été prises uniquement ou à la suite d'avoir écouté telle émission qui soit passée sur telle chaîne, sur Radio Capi, et les gens se sont réveillés. Donc, il faut que ces mesures-là soient prises maintenant. Bon, évidemment, la question de quel téléphone devra-t-on donner aux enfants, madame Jocelyne? Quel téléphone devra-t-on? Est-ce qu'on doit devenir encore sur 3310? Vous vous rappelez de 3310? Non, qui est là parce que c'est celui.
Éviter les smartphones.
Les smartphones. Mais aujourd'hui, tous les enfants veulent quelle marque? Vous le savez. La dernière série à gamme. Donc, on les appelle comment ici? Je ne veux pas faire de la publicité. Donc, c'est ce modèle-là. La dernière série. C'est ce que les enfants veulent. Vous lui donnez 33 d'ici, il va le jeter à la poubelle aussitôt. Donc ça veut dire, il faut que les parents et nous tous, vous voyez la dynamique de ces réseaux mobiles, madame, ne nous donne pas le choix. Ça tombe sur la tête. C'est-à-dire, dans leur dynamique de fonctionnement, que nous n'ayons pas la possibilité de les affronter. Qu'ils nous devancent, chaque fois que nous voulons prendre une mesure, ils sont en avance. Ils sont glissants. Ils sont, comme on le dit à Lingala, mousselou ou rapide. C'est-à-dire, ils sont rapides. Ils avancent et ils produisent chaque jour des contenus, ils produisent chaque jour des applications, ils produisent chaque jour des modèles. Il faut donc que nous, avec notre gouvernement, nous puissions nous asseoir pour prendre d'abord les mesures draconiennes et à la suite de ces mesures-là, les réseaux vont nous suivre et vont négocier avec nous. C'est important. J'ai insisté sur cette question-là en ce qui concerne comment faire. Eh bien, d'abord, les parents doivent, dans la mesure du possible, refuser à un certain âge d'enfant l'accès au téléphone. Vous voyez? C'est parce que les petits voient les grands frères avec le téléphone, qui aussi harcèlent le papa, harcèlent le maman, que moi aussi je dois avoir un téléphone. Il faut que ça soit fait d'abord au niveau des parents.
Les parents cèdent à la pression.
À la pression, surtout si l'enfant est parvenu quand même à amener même un bon résultat. Le seul cadeau qui reste, comme on l'a dit, le seul cadeau qui reste, c'est le téléphone. Nous, les cadeaux qu'on nous donnait, eh bien, c'est la machette, c'est la roue, et ensuite, à un certain niveau, le livre. Et nous sommes devenus des écrivains. Nous sommes devenus, et vous voyez donc, le prix que nous avons reçu, le mérite là, c'est par rapport à toutes les publications.
Médaille d'or par la chancellerie des ordres nationaux, vous avez été décoré hier.
C'était hier, madame, et merci beaucoup.
Félicitations.
Merci, je vous en prie. C'est parce que nos parents nous donnaient des livres comme cadeau. Et ces livres-là ont fait de nous des chercheurs et des écrivains. Nos livres sont sur l'état du territoire national et vous les suivez ici chaque jour sur Radio Capi. Ça veut dire tout simplement par rapport à ce que nous avons reçu, les cadeaux que nous avons reçus. Et quelque part, là, dans les Écritures, on dit que non, les cadeaux, les dons d'un homme, les dons que vous recevez, vous ouvrez la voie et vous fait asseoir parmi les grands. Donc, les cadeaux que nous donnons aux enfants, risque d'être la machette que nous leur avons donnée pour couper la tête du voisin et sa propre tête ensuite. Il faut donc que nous revenions sur les beaux cadeaux à donner aux enfants. Les téléphones aujourd'hui n'est plus les beaux cadeaux. Nous les séduisons, mais nous les détruisons.
Nous allons prendre l'intervention de Gentil Crispin, qui nous écrit depuis Ouvira. Il dit ceci: nous pensons que le problème n'est pas l'usage, mais plutôt il faut qu'il y ait une façon de prendre des responsabilités tant qu'aux parents, enfin les parents ou les personnes ayant les compétences de guider, surveiller les enfants avec le nécessaire effort possible. Enfin, c'est impossible d'interdire l'usage du téléphone car les besoins s'est multiplie tant pour les adultes que pour les mineurs, et donc cherchons à emmener les enfants à visiter des sites appropriés qui conviennent à leur âge.
Tout à fait, mais nous avions dit, s'il est en train de suivre Crispin à Ouvira, nous avions dit que qui est ce parent-là aujourd'hui qui a le temps?
Hein? Admettons,
vous avez 5 enfants, disons, bon, prenons 3 d'un certain âge qui ont tous des téléphones. Qui est ce parent-là qui a l'état chaque jour de suivre les contenus que ces 3 enfants sont en train de suivre? Personne n'a cette capacité-là. C'est pourquoi il faut que, comme vous l'avez donné l'exemple du Burkina Faso, qu'il y ait à certaines heures décrochage de certains réseaux sociaux. Absolument. Il faut vraiment que ce soit des réseaux qui fonctionnent la journée, le moment des affaires, mais la nuit, il faut qu'il y ait des heures où on délimite. Il faut que les gens dorment. C'est comme on demandait à l'époque, rappelez-vous, lorsque nous parlions sur ces antennes des tapages nocturnes, il faut que à des heures telles, il n'y ait plus ni bafle, ni mbunda, ni musique, ni louange sur l'étendue des villes. C'est important, on l'a réclamé depuis tout ce temps. Et parce qu'on ne l'a pas fait, le problème devient...
Maître Omar disait tantôt là qu'il fallait une éducation au numérique. Comment cela peut se passer concrètement?
Je crois qu'il a raison de dire que dans les écoles, on puisse programmer dans l'enseignement primaire et secondaire, c'est-à-dire dans les programmes nationaux, une formation sur le numérique. Une formation. Demain, sur l'intelligence artificielle, donc pour former nos enfants. D'ailleurs, je vais proposer que maintenant que nous avons signé avec l'Amérique, il faut que l'anglais puisse prendre les défis sur le français dont nous n'avons. Cette langue que je parle là, je ne sais pas à quoi ça me sert aujourd'hui.
À communiquer,
mais oui, madame, en termes d'héritage aujourd'hui, maintenant. Et lorsqu'on voit le comportement de la France vis-à-vis des intérêts de la République, il faut que nous puissions élever à valeur l'anglais. Parce que c'est important. Et en particulier nos langues nationales. Il faut que beaucoup... Je l'ai déjà réclamé sur cette chaîne, que la justice congolaise doit s'administrer à Lingala, à Kikongo, en Chiluba et en Swahili. D'abord, principalement, les 4 langues. Il faut que nous puissions élever nos langues. Donc, qu'on puisse programmer dans les écoles une formation numérique. Et c'est cette formation-là qui va prévenir, n'est-ce pas, qui va prévenir nos enfants à être préparés, à être formés par rapport au contenu incolore. Et on connaît des lits inutiles, comme vous l'avez dit, et qui ne sont pas, n'est-ce pas, de nature à bien éduquer nos enfants. C'est important que ça soit fait dès maintenant, et nous ne devrions plus perdre le temps.
Merci beaucoup, Maître Ruffin Louco. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir participé à cette émission à travers vos questions. Restez à l'écoute de la fréquence de la paix. On se retrouve très bientôt.